Linda, bonjour.
Bonjour Mamal, bonjour à tous. Le crash d'avion militaire, lequel a coûté la vie à deux cadres décédés en martyr et blessé quatre autres, continue à faire réagir. Le président de la République a transmis un message aux familles des victimes. Le général d'armée s'est rendu, lui, ce matin au chevet des blessés à l'hôpital de Ennahdha. Le président Tebboune suit de près les grands projets structurants, notamment dans le secteur des transports. Ils sont en voie d'achèvement livrable à la fin du mois. Des projets prometteurs pour l'économie nationale, pour notamment les marchés africains. Les prix du pétrole s'emballent à plus de 87 $ ce vendredi, une première depuis le mois de juillet dernier. C'est l'effet direct de la guerre au Moyen-Orient. Les derniers développements à suivre dans le journal. On évoque un désastre humanitaire en raison du déplacement massif des populations iraniennes et libanaises notamment. Pour revenir au sujet lié au mois de Ramadan, d'abord ce chiffre fourni ce matin par la protection civile, plus de 90 morts depuis le début de Ramadan sur les routes et 3000 blessés. L'une des causes sans doute le manque de sommeil. Comment y remédier? Avis de spécialistes dans la partie magazine. Et puis en sport, football, championnat national de Ligue 1, 22e journée, 3 matchs au programme cet après-midi. Et on parlera également gymnastique avec la qualification de Kélian Aymour au concours de la poutre. Et puis cette nouvelle alerte météo, ouest et centre du pays qui sont concernés, jusqu'à 40 mm de cumul attendu. L'alerte reste valable jusqu'à demain.
Pendant le mois de Ramadan, les habitants.
Bienvenue à tous dans cette partie Mag Weekend de ce vendredi coïncidant avec le 16e jour du mois de Ramadan, nous alertant sur un danger qui peut mettre en péril notre vie. Et on parle du manque de sommeil suite à des soirées qui n'en finissent pas pendant ce mois sacré. La compensation et la récupération deviennent difficiles. Alors quelle attitude adopter? Réponse dans ce reportage signé Smaïl Mimouni.
Pendant le mois de Ramadan, les habitudes de sommeil changent profondément. L'éveil est tardif, la prière des tarawih, le suhur, perturbe souvent le rythme biologique. Un manque de repos qui se fait rapidement ressentir au quotidien. Pour les citoyens, la fatigue s'installe progressivement durant le mois sacré. Certains disent dormir très tard et avoir des difficultés à se lever pour le travail. Tandis que d'autres reconnaissent ressentir davantage de nervosité et de fatigue au cours de la journée, surtout à l'approche de l'heure de la rupture du jeûne.
Le sommeil, c'est important. On grignote sur le sommeil. Donc, on peut le compenser la journée. Le problème, c'est pour les gens qui travaillent ou qui travaillent l'après-midi, puisqu'un doux bachir d'ailleurs qu'il y a un peu de temps. Même entrecoupé, ça compense un peu le sommeil nécessaire. Il doit le respecter. Même entrecoupé, il doit respecter donc les 6h, 8h, dans la journée.
Le sommeil, c'est le problème de tout le monde, généralement. Ben, moi, quotidiennement, moi, je garde toujours le même rythme que l'iftar, n'rqod bkri, nod bkri, généralement même je mange pas trop pour ne pas sentir lourd, même hass bli maghrib ni ramadan anaya parce que le sommeil est ça.
Les spécialistes mettent en garde contre les effets du manque de sommeil. Le professeur Merzak Ghernaout, pneumophtysiologue et allergologue et recteur de la faculté de médecine d'Alger, souligne que la privation de sommeil peut affaiblir l'organisme, réduire la concentration et accentuer la fatigue chez le jeûneur.
On ne peut pas empêcher des gens de veiller. On sait la perturbation du sommeil lorsqu'on veille très tard. On n'est pas bien. Notre système hormonal se dérègle et tout ça a un retentissement sur l'ensemble de nos organes. Ça commence par le cœur et les vaisseaux. Juste après le tarawih, l'insan, il doit prendre son temps de sommeil qui est de 7 à 8 heures. C'est important pour pouvoir éviter beaucoup de pathologies, surtout la pathologie cardiovasculaire.
De son côté, le professeur Rachid Belhadj, chef de service de médecine légale et directeur général des activités médicales du CHU Mustapha, indique que la fatigue accumulée peut également provoquer irritabilité, tension et parfois des comportements agressifs.
L'être humain, sur le plan physiologique, le sommeil, on dit le sommeil est réparateur. Le bon Dieu nous a donné cette capacité, ce don de pouvoir récupérer, et de pouvoir réparer tout ce qui était endommagé dans notre organisme. Et lorsque quelqu'un inverse d'abord son rythme de sommeil, donc il veille jusqu'à 5 heures du matin, et puis il dort toute la journée, il perturbe aussi son alimentation, c'est-à-dire il va intoxiquer son corps. Ces phénomènes-là sont générateurs, c'est un stress endogène, c'est un stress endocrinien qui est source aussi de l'irritabilité de l'homme, qui les rend vulnérables, fragiles, excitables, qui va être auteur de la violence. Lorsqu'il est, c'est-à-dire arrêté devant la justice, souvent indem. Écoutez les gens, écoutez les spécialistes, écoutez les gens qui sont spécialistes de la question, soit l'alimentation, soit l'hydratation, soit le sommeil. Évitez justement d'écouter des gens qui ne sont pas professionnels.
Pour sa part, le docteur Rachid Hamidi, spécialiste en santé publique, explique que la somnolence et la baisse de vigilance constituent des facteurs importants dans de nombreux accidents de la circulation, notamment durant les heures qui précèdent l'iftar.
Les troubles du sommeil, c'est une perturbation totale du système hormonal de la personne. Et ça induit à une fatigue généralisée. Ça induit aussi des troubles de mémoire, un manque de sommeil. Et là, c'est tous ces facteurs qui peuvent entraîner beaucoup de problèmes dans les accidents de la circulation. Surtout les derniers moments de la journée, la personne, généralement, elle est en hypoglycémie. L'hypoglycémie entraîne des troubles de mémoire et cela peut entraîner un trouble de sommeil énorme qui peut induire des accidents de la circulation et d'autres pathologies. Les solutions, il faut donner l'importance au sommeil, quel que soit l'âge de la personne. Surtout chez les jeunes, la journée, il travaille, donc il est obligé de se réveiller la matinée. Et là, le corps, il est fatigué, pas d'énergie, il est en hypoglycémie et cela peut induire des troubles mentaux, un manque d'énergie. Il faut sensibiliser surtout les jeunes qui restent toute la nuit et avec, en plus, en prenant de la caféine, la théine, etc. Et c'est des produits qui incitent le corps humain à ne pas être perturbé dans les différentes étapes d'AO.
Les spécialistes recommandent ainsi de préserver un minimum d'heures de sommeil et adopter un rythme de vie équilibré durant le mois de Ramadan. Avec suffisamment de sommeil, une précaution essentielle pour préserver la santé, la sécurité sur les routes et le bien-être de tous.
Et pendant ce mois, beaucoup d'entre nous hésitent à faire des dons de sang, un précieux liquide qui peut pourtant sauver des vies. Pour booster les donneurs à passer le pas, des équipes de transfusion sanguine vont jusqu'à eux. Pas besoin de se déplacer. Les collectes sont organisées juste après le Ftour ou après les prières de Tarawih, notamment devant les mosquées. Hassan Chemesh les a rencontrés à Cheraga hier soir.
Il est 21h. Nous sommes à Cheraga. Nous sommes avec l'équipe du centre de transfusion sanguine du CHU Mustapha. L'équipe organise une collecte de sang au niveau de l'école coranique. Le docteur Belgaïd, maître assistant.
Nous sommes dans l'école coranique de Cheraga. On effectue une collecte mobile pour le don de sang. Aujourd'hui, on note la présence d'un nombre important, d'un afflux de donneurs, qui n'est pas toujours le cas dans le mois de Ramadan. C'est des gens de tout âge, de tous les rangs sociaux. Il vient de part et d'autre.
Le don de sang débute par un petit questionnaire pour savoir si la personne pourra offrir ou non le sang.
C'est sur l'état clinique du malade. Le don de sang, il y a un aspect législatif où on doit respecter l'âge, la tension artérielle, le poids, etc. Mais aussi l'état général du donneur. Parfois, quand il est ectérique, anémique, on peut aggraver l'anémie du donneur. On sera dans l'obligation de l'exclure, soit temporairement ou définitivement.
Les fidèles se sont rassemblés pour offrir leur sang après la prière des Tarawih. Ce geste noble est vital, surtout que le mois béni enregistre une baisse du nombre de donneurs.
Là, on a un O négatif. O négatif, normalement, il est pris par tous les groupes sanguins. C'est un honneur.
Vous avez l'habitude de donner ?
C'est pas la première.
Côté Tarawih. كنت نصلي جيت انا وجماعه على كل حال جينا في عدد 5 ولا 6 باش نمدوا الدم ان شاء الله وان شاء الله يجوا الناس يمدوا الدم باش يحيوا حياه ان شاء الله وصحه رمضانكم
جينا اليوم تبرعنا بالدم في سهره رمضانيه وان شاء الله نتمنى من الناس يبادروا وكاين بزاف الناس محتاجين
تبرع بالدم احسن مليحه بس مليحه هذيك نتاع الكور تاعك ديجا الدم تاعك الخلايا تجدوا وثاني شغل هذه احسن مليحه فلازم نجوا نمدوا الدم واش قادر نوصل كليك
تبرع بالدم سي اون بون شوز باسكو ميم سي شغل كاين دي جون فريمون دون لو حنا ونسديل راح تمد دمك برك ما عرف صابو سوفي دي جون بور لون اوبيراسيون ولا ميم سي سي با اوبليغاتوار سي توجور بيان دوني ديجا مليحه للكور تاعك اي اوسي كوم جلي دي من قبل صابو فريمون سوفي دي جون باسكو كاين دي غروب رار وين يجي واحد بالك يفان دوني دي فوا صابو سوفي بنادم اللي صون ميم با كونت من الخير لا ويدير فيه
فان دو لا كوليكت دو سون ليكيب a collecté 63 poches de sang.
Fin de la collecte, il est 23h30, 63 donneurs, 74 donneurs de sang dont 11 ont été inaptes. Donc on a reçu quand même 63 donneurs, c'est un chiffre exceptionnel.
63 donneurs, c'est 63 poches.
Exactement.
Une poche de sang peut sauver 3 vies.
Une poche de sang ne signifie pas un seul malade. Des fois, une poche de sang peut subvenir à 3 malades. Donc une poche de sang peut se sauver jusqu'à 3 vies. Hein.
Une poche de sang
ouais, ouais. On va les séparer en concentré globulaire, du plasma frais congelé et des concentrés plaquettaires. Donc ça peut être trois indications différentes, trois produits différents.
Avant de quitter les lieux, le docteur Belgaïd lance un appel.
On incite les gens à donner son sang, surtout avec les pénuries actuelles, avec le manque d'affluence de la population au niveau des centres de transfusion. Exactement, au nombre d'accidents, exactement, généralement augmenté au niveau du mois de Ramadan, malheureusement. Les demandes sont souvent importantes.
Les collectes de sang sont vitales. Elles permettent de sauver des vies en soignant accidentés de la route, personnes atteintes de cancer et malades chroniques.
Et l'appel est lancé sur nos ondes. Les soirées de Ramadan sont aussi rythmées par les activités culturelles. À partir de ce lundi, les amoureux de la chanson Chaabi au Palais de la Culture seront servis. Une 15e édition du Festival National dédié à ce genre musical très apprécié et auquel adhèrent de nombreux jeunes. Une relève assurée, Nadia Siassi.
Je me retrouve aujourd'hui au Palais de la Culture Moufdi Zakaria d'Alger où j'ai l'opportunité de rencontrer Monsieur Abdelkader Ben Damej qui n'est plus à présenter, les commissaires de la 15e édition du Festival National de la Chanson Chaabi. Déjà 15 ans, Monsieur Abdelkader Ben Damej, Sahar Mdanek.
Sahar Mdanekoum et puis merci bien de m'avoir donné l'occasion encore de parler de Chaabi.
Alors, sous le thème du savoir et de la connaissance.
Déjà dès le départ, parce que ce festival existe déjà depuis 2006, il y a eu un arrêt et maintenant, il a repris depuis 2022. D'ailleurs, depuis toujours, depuis qu'on a commencé ce festival, on a toujours dit, et puis surtout, il est orienté vers la jeunesse. Et qui dit jeunesse, dit université, dit communication de la connaissance, communication, organisation de la formation. Il faut que les jeunes qui sont encadrés dans le cadre de ce festival, il faudrait qu'ils aient des connaissances. Et puis, le Chaabi manquait à un moment donné. Maintenant, il ne manque plus. Il y a des livres, il y a des gens qui s'intéressent à ça, les médias aussi qui s'intéressent à ça. Donc, il était assez connu aujourd'hui. On a dit l'ilm ou l'marifa, le savoir et la connaissance comme moteur de notre action depuis toujours. Comment elle se traduit sur le terrain? Elle se traduit sur le terrain par l'organisation des masterclass d'abord, c'est la formation directe de maître à élève, et ensuite la publication de livres, diwan. Donc à chaque fois on édite un diwan. Aujourd'hui nous avons déjà une petite bibliothèque à présenter au public et puis à présenter à la mémoire également collective de notre pays. Il y a également les grands hommages des grandes personnalités qui ont fait ce Chaabi depuis au moins un siècle, qui ont animé le 20e siècle. Et si on ne les ravive pas aujourd'hui dans la mémoire cette année, il y a du nouveau dans la création d'un petit spectacle musico-théâtral et aussi poétique qui s'appelle « Fiklamu Qal Sha'r »« Le poète a dit » qui est dirigé par le maestro Mhala Fethaddin. Et là, on présente les anciennes chansons et on présente également la poésie dans un petit un moment de 10 minutes. Là.
Quelles sont les activités de cette 15e édition, Monsieur Abdelkader Ben Damej?
Non, les hommages, par exemple, c'est une activité, une grande activité de mémoire. Ça sera un hommage à Cheikh Khalifa Belkassem, qui est décédé en 1951, et Cheikh Mohamed Bourhla, qui est décédé en 1984, au lieu saint de l'islam. Qui est d'Alger, originaire de Djilfa, mais il a vécu à la Casbah et c'est devenu un grand maître de la chanson Chaabi. Ça, c'est l'activité des hommages. L'activité également du livre qu'on a publié, de le livre, on va le diffuser. L'activité également de la poésie qu'on doit déclarer. Il y a des poètes qui vont venir déclamer des poèmes. Et puis, en plus, il y a une exposition des grandes figures du Chaabi, l'exposition des figures de l'art musical Chaabi, depuis le début du siècle, depuis Cheikh Nador, tel les jeunes talibans. Il y a aussi le hall du Palais de la Culture va abriter aussi une petite exposition vente de livres du patrimoine. Donc, on aura des livres qui vont être exposés. Et puis, à la vente aussi avec des réductions. C'est aussi encourager les gens à la lecture. Et ça rejoint un peu notre travail de connaissance et de savoir dans ce domaine-là.
Bon festival, M. Abdelkader Ben Damej. Merci pour tous ces détails.
Rostom Yahya Sherif est avec nous pour la page sport. On l'entame à 12h14 sur les ondes d'Alger Chaîne 3. On va parler foot avec le championnat de Ligue 1, 22e journée. Trois matchs au programme cet après-midi, mais aussi de la gymnastique et surtout de la gymnastique puisqu'Elia Nemour s'est qualifiée au concours de la poutre cette matinée.
Tout à fait, Linda, avec un score de 14 668. Kélia Nemo, notre championne olympique et championne du monde au bar asymétrique, eh bien, vient de se qualifier pour la finale de la poutre qui aura lieu dimanche. Je rappelle que hier, Kélia Nemo s'était qualifiée pour la finale des bars asymétriques en terminant à la troisième place de son agré de prédilection. En terminant donc à la troisième place du classement général, derrière les deux Russes. Et la finale des barres asymétriques aura lieu demain matin pour Kailia Nemo. En attendant aujourd'hui l'entrée en lice pour les qualifications de la poutre et le sol de la jeune gymnaste, également coéquipière de Kailia Nemo. Il s'agit de Luna Hamamas. Et puis de la gymnastique en passe au judo avant de parler de football, puisqu'il y a l'entrée en lice aujourd'hui des trois judokas algériens au Grand Prix d'Autriche qui se poursuit d'ailleurs en ce moment même dans la ville de Linz. Seul Qadou Houaria reste encore en compétition dans la catégorie des moins de 48 kilos après avoir battu la Roumaine Bogdan Laura au premier tour. Qadou Houaria sera opposé au tour suivant à un gros morceau, la Kazakh Habiba Abouzakionova, qui n'est autre que la numéro 1 mondiale chez les moins de 48 kilos. Les deux autres judokas engagés pour cette première journée du Grand Prix d'Autriche, Mudathir Qais et Benkhira Khadija, ont été éliminés ce matin dans la catégorie des moins de 66 kilos. Mudathir Qais s'est qualifié au premier tour face à l'Australienne Joshua Katz avant d'être éliminé par le 59e mondial, le Britannique Fryer Michael. De son côté, Benkhira Khadija, exemple du premier tour, quittera la compétition deuxième tour face à l'une des favorites chez les moins de 57 kilos, la Brésilienne Jessica Lima, 16e au ranking mondial. Donc en attendant le résultat de Adol Houadia, qui je rappelle reste en cours en compétition dans la catégorie des moins de 48 kilogrammes. On arrive au football avec la Ligue 1, début aujourd'hui, ce soir, de la 22e journée du championnat national de Ligue 1, avec trois rencontres au programme. On va commencer par la première affiche qui oppose la JS Kabylie, 10e au classement avec 25 points, qui compte 4 matchs de retard face au premier relégable, le Paradou Athletic Club, qui compte 17 points. On écoute sur ce match l'entraîneur de la JS Kabylie, Joseph Zimbauer, au micro de Mohamed Haouchine.
On doit se concentrer sur le Paradou, c'est un match important. On a besoin de ces trois points. On sait qu'eux aussi ont besoin de points. Il dit que c'est un nouveau coach, pas facile, parce qu'il dit que dernier match, ils ont joué avec 5 défenseurs, 4-3-3 ou 4-4-2, différents systèmes. Il dit qu'il se prépare pour ça, qu'il s'est déjà préparé avec son équipe. L'état d'esprit est très bon de notre équipe, de blessures importantes. Tous les joueurs sont prêts. J'ai entendu aussi que les supporters reviennent, donc je suis aussi content de ça. On a besoin de supporters derrière nous, qui se battent pour nous aussi dans les moments difficiles du match, ça dans de manière positive pour avoir un bon résultat.
C'était l'entraîneur de la JS Kabylie, Joseph Zimbauer, sur ce match face au Paradou Athletic Club qui débutera à 22h, tout comme le match entre l'AS Auchlef et l'entente de Sétif. L'AS Auchlef, premier non relégable avec 22 points face à l'entente de Sétif, 8e en compagnie du Chabab de Belouizdad avec 26 points. On écoute sur ce match l'entraîneur de l'AS Auchlef, Belaïd Abdelhaq, au micro de Zoubezgaï.
On est revenu au travail pour la prochaine rencontre, Inch'Allah. Un adversaire, il voulait aller dernièrement avec de très bons résultats. Inch'Allah, on connaît à la hauteur, on connaît, Inch'Allah, pour réaliser un bon résultat. Certes, ça sera pas facile. On est obligé de faire le maximum, Inch'Allah, pour obtenir les trois points, Inch'Allah, ou rejoindre la confiance de la Khassatna. Inch'Allah, on connaît à la hauteur, Inch'Allah, il connaît un bon résultat.
ASO Chlef entend de Sétif à 22h également. Dernière rencontre d'aujourd'hui pour cette première partie de la 22e journée. Le Mouloudia d'Oran, 5e avec 30 points, qui compte un match en moins face à l'USM Khenchla avec son nouvel entraîneur Dili Bilal. On écoute l'attaquant du Mouloudia d'Oran sur ce match face à l'USM Khenchla, Boubacar Traoré, au micro d'Ali Hamouche.
On va préparer comme tous les matchs. Comme on l'a dit, on va préparer match par match, se mettre au travail pour préparer le prochain match pour avoir les 3 points. On fera tout pour confirmer, pour gagner chaque match par match, pour confirmer les résultats.
Donc le Mouloudia d'Oran face à l'USM Frenchel à 22h, Aïssou Chlef en tant de Sétif également à 22h et JS Kabylie Paradou Athletic Club. 3 rencontres que vous pourrez suivre ce soir en direct sur nos ondes dans Sport sur la 3. La suite demain de cette 22e journée avec 3 rencontres, 2 à 15h, l'Espérance de Mostaganem face au leader, le Mouloudia d'Alger, l'Étoile de Benaknoun face au Mouloudia d'Albayad, et à 22h, Chebab Yadi de Belouizdad face au MB Louis 7. On passe à la Ligue 2 avec les rencontres de la 22e journée dans le groupe Centre-Est, et il y aura de belles affiches. Dans, notamment celle entre le 3e au classement, la JS Djidjelien, qui accueillera le Mob de Béjaïa. Ça sera à 15h. Le Dauphin du Cap de Batna, l'US Biskra, accueillera le NRB Tlarma, le Chebab Yadi de Benito à 22h face au Najm de Magadha, et le MSP Batna face à l'USM Annaba. Le leader, le Cap de Batna, jouera dimanche en déplacement face au Hilal Baladiyet, Chelroum El Eid à 15h. Le match a été décalé à dimanche en raison du match du Cap de Batna en Coupe d'Algérie, des quarts de finale de Coupe d'Algérie, joué mercredi dernier, qui avait vu le Cap de Batna se qualifier pour les demi-finales aux dépens du Mouloudia de Serida sur le score d'un but à 0. La Ligue 2 dans le groupe Centre-Ouest également à 15h aujourd'hui avec une seule rencontre, à le Wydad de Mostaganem face à l'ESM Kolea. Mostaganem 10e avec 27 points face à Kolea 6e avec 32 points. La suite demain du groupe Centre-Ouest à 15h, le Kouba face au RC Laba, la Zomdoran face à la GSM Tiaret, et le Dauphin de la GSE El Bihar, El Harash face au Nahd, alors que El Bihar à huis clos affrontera la JS Tirsadayen. On passe au handball. La lutte pour la course au play-off se poursuit chez les messieurs à l'occasion de la 13e journée du championnat Excellence programmée ce soir. 3 équipes qui luttent pour ce dernier billet dans le groupe A, nous dit Lotfi Benizera.
Cette 13e journée du championnat Excellence messieurs sera capitale pour 3 équipes du groupe A, à savoir le Mouloudia d'Alger, Amel Beleka et l'Olympique d'Annaba, puisque les 3 clubs disputeront leur billet qualificatif pour les playoffs. La première affiche se jouera à Borj Kifane et opposera le Mouloudia d'Alger au Mouloudia Dwet Lilet. Pour l'entraîneur du Mouloudia d'Alger, Zeki Abada, c'est tout simplement le match de la saison.
Pour nous, ce sera le match de la saison, puisque c'est un match qui garde nos chances d'aller jouer les playoffs. C'est un match très très difficile contre une équipe de Tlilet bien organisée, qui joue leur chance pour la suite. Mais on n'a pas le choix, on va tout faire pour gagner ce match-là. J'espère qu'on sera à la hauteur des attentes des supporters du Mouloudia.
L'autre affiche à suivre opposera Amel Beleka à l'Olympique d'Annaba, 2 équipes concernées par la course au play-off. Pour le reste des rencontres, l'Olympique d'El Oued, second classement, affrontera le leader, le Mouloudia de Borj Barilij, alors que l'Ittihad Ouargla affrontera à domicile la JS Saoura. Pour rappel, au classement du groupe A, le Mouloudia de Borj Barilij occupe la première place avec 19 points, suivi de l'Olympique d'El Oued avec 18 points. La JS Saoura occupe la troisième place avec 13 points, suivi d'Amel Beleka et l'Olympique d'Annaba là-bas avec 11 points chacun, alors que le Mouloudia d'Alger juste derrière avec 10 points.
Chez les dames, la 4e journée des playoffs, toujours en handball, programmée également ce soir, est favorable au leader du handball club d'El Bihar, qui aspire à écrire de nouveau l'histoire du handball féminin. Les championnes en titre sont à 2 victoires du 100e succès de suite en championnat. Présentation de la journée signée Lotfi Benizera.
Leader du groupe, le handball club d'El Bihar se déplacera à Mila pour tenter d'enchaîner par une 99e victoire de suite en championnat. El Bihar occupe pour le moment la première place avec un total de 8 points. Sur ce match, on va écouter l'entraîneur du handball club de Mila, Mourad Etoualap.
L'équipe d'El Bihar, une équipe très forte, une équipe qui a de l'expérience. On va essayer de jouer un match correct avec eux, mais ça va être très difficile vu que notre équipe est très jeune. Je peux dire qu'avec ce match, on va préparer les autres matchs qui nous restent pour terminer quand même l'allée avec les 4 équipes qui vont jouer après le championnat.
De son côté, l'entraîneur Karim Achour du Handball Club d'El Bihar insiste sur l'importance de rester sur cette dynamique.
Ça sera un match contre Mila qui est en train d'enregistrer des bons résultats. Mais nous, notre objectif, c'est toujours de gagner tous nos matchs et de rester invaincus. Les joueurs sont bien préparés, sont bien conscients de leur ambition. On va jouer contre Mila très bien sans nos effectifs. Maintenant, j'espère qu'on va gratifier le public d'un bon match entre les équipes qui sont dans une bonne phase.
Pour le reste des rencontres, le TSC Tif jouera à domicile face au club féminin de Boumdest, 3e au classement. L'OSL Oued se déplacera à Tizi Ouzou pour affronter le CS Mouloud Mamri, deux équipes qui n'ont pour l'instant gagné aucun match depuis l'entame de la phase des playoffs, alors que le Mouloudia d'Alger, 2e au classement avec 6 points, jouera à domicile face au NRF de Constantine.
Et du handball, on passe au basketball avec la 25e et avant-dernière journée du championnat Super Division, messieurs de la phase régulière, je précise, avec ce soir à 22h, 3 rencontres dans deux belles affiches. L'USM Alger face au Chebab Edido d'Albeda dans la course pour le top 6 qualificatif directement pour les playoffs également. Le Huba Club Basketball, c'est l'une des affiches face à l'USM Blida. Une rencontre décisive selon l'entraîneur du Huba Club Basketball, Lemine Kridesh.
C'est un match décisif. On s'est préparé comme chaque match, essayer de réaffiner nos schémas tactiques. Ça va se jouer sur des détails, mais c'est plus un match défensif, bagarre au rebond, qu'un match offensif à outrance. C'est vrai qu'on a perdu Rabaï, mais on va essayer de combler ce manque par d'autres joueurs dans le même poste que le meilleur gagne.
Et du côté de l'USM Blida, son entraîneur Ahmed Beniabou estime que ce match, la clé de ce match sera la défense.
Oh, le match, il est important pour les deux équipes. Si on veut se qualifier parmi les six, la défaite, elle va laisser des séquelles et on a le dernier match contre Boufarik. On doit gagner les deux matchs pour se qualifier parmi les six. Nous, on a préparé le match. Surtout la défense, on doit défendre comme il en faut parce que c'est une équipe qui a des joueurs qui ont beaucoup de qualité. Sur le plan attaque, on a des joueurs qui ont beaucoup progressé que le Mielga.
Autre rencontre ce soir à 22h, le Mousterbel de Wetchbel, lanterne rouge qui est assuré de jouer les play-down, accueillera le Chevedi de Benissaf également en course pour le top 6 qualificatif directement pour les play-offs. Donc ça reste très serré entre Huiba, Lusma, Blida et Benissaf. Surtout qu'hier, le Mouloudia d'Alger s'est imposé 102-68 face au Trad de Dalaria. Et puis chez les dames, la Nationale 1 ce soir à la 19e journée à 21h, le choc, les deux dauphins du groupement sportif de Cossider, Hussein Desmarines et l'USM Alger s'affrontent à la salle du Caroubier. On écoute sur ce match tout d'abord l'entraîneur adjoint d'Hussein Desmarines, Mohamed Ben Abbas.
Les équipes qui jouent les premiers rôles au championnat, donc tout le monde cherche à se placer pour avoir la première des choses, la qualification pour les playoffs. Pourquoi pas ne pas se classer pour organiser un tournoi au niveau de notre salle. Ça va se jouer sur des détails, deux équipes qui se valent, deux équipes qui se connaissent. L'équipe qui va faire moins d'erreurs, qui va quelque part assurer cette victoire.
On va à présent écouter l'entraîneur de l'USM Alger, le nouvel entraîneur de l'USM Alger, Rachida Belidi. Pour elle, la rencontre sera difficile pour son équipe face à une expérimentée équipe du Saint-Des Marines.
Un match derby cherche. L'USMA, c'est une équipe jeune qui va jouer contre une équipe plus expérimentée. Ça commence à travailler. Ça fait pas longtemps que je suis avec elle. Nous, on va se donner à fond. On va jouer le tout pour le tout. Et l'équipe qui est bien préparée, c'est l'équipe qui va gagner. Il va y avoir des absences vu les blessures de quelques-unes. Donc, on sera amoindré. Mais malgré ça, on va se donner à fond avec le reste de l'équipe, Inch'Allah.
La suite de cette 19e journée ce soir également à 21h30, le MTC Tif face à l'Union Sportive Oresienne de Batna, le Wydad de Ain Bniane face à la jeunesse féminine de Kouba, alors que le leader, le groupement sportif de Kossider, sera en déplacement face au Racing Club de Bouazedij. On passe à l'athlétisme, déroulement de ce soir de la première soirée ramadanesque au niveau du complexe olympique Mohamed Boudiaf de Deli Barahim. Présentation signée notre spécialiste maison en athlétisme, Malik Louhala.
C'est ce vendredi, à l'occasion d'une soirée ramadanesque, que les amateurs d'athlétisme se donneront rendez-vous au niveau du stade d'athlétisme du complexe olympique Mohamed Boudiaf. Cette compétition constitue la troisième étape sur piste de la saison et connaîtra un programme riche en épreuves, avec notamment 14 courses et 10 concours. Il y aura des courses de haies, du 110 mètres haies et du 400 mètres haies. Et du côté du sprint, il y aura du 400 mètres ainsi que du 200 mètres, avec notamment le retour du champion d'Algérie 2024, le Mouloudien Eden Benyech. Le demi-fond ne sera pas en reste vu que trois courses seront au programme, à savoir du 800 mètres, du 1500 mètres ainsi que du 3000 mètres steeple, avec la présence des éléments de l'équipe nationale militaire. Du côté des concours, on verra la présence du jeune Louay Lamraoui du CR Chiraga au 100 longueurs, ainsi que Younes Khetel du MC Alger au lancer du marteau. Début de la compétition à partir de 22h30 au niveau du Sato de Deni Brahim. Soyez au rendez-vous.
Et on retrouvera Malik Louahla également à partir de 22h dans Sport sur la 3. C'était la dernière info sport de ce magazine du 12-13. Vous retrouverez dans quelques secondes Linda de 12h30.
Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal.
Le journal de la mi-journée avec Linda Hamed. Linda, bonjour.
Bonjour Rostoum, bonjour à tous. Le crash d'avion militaire, lequel a coûté la vie à deux cadres décédés en martyr et blessé quatre autres, continue à faire réagir. Le président de la République a transmis un message aux familles des victimes. Le général d'armée s'est rendu, lui, ce matin au chevet des blessés à l'hôpital de Ain Najjar. Le président Boone suit de près les grands projets structurants, notamment dans le secteur des transports. Ils sont en voie d'achèvement, livrables à la fin du mois. Des projets prometteurs pour l'économie nationale, pour notamment les marchés africains. Les prix du pétrole s'emballent à plus de 87 $ ce vendredi, une première depuis le mois de juillet dernier. C'est l'effet direct de la guerre au Moyen-Orient, les derniers développements à suivre dans quelques instants, et on évoquera entre autres ce désastre humanitaire en raison du déplacement massif des populations iraniennes et libanaises notamment. En sport, football, championnat de Ligue 1, 22e journée, 3 matchs au programme ce soir, puis gymnastique avec la qualification de Kélian Aymour au concours de la poutre. Bienvenue à tous. Le drame a créé émoi et consternation à travers tout le pays. En ce mois béni, le crash d'un avion de transport militaire, il s'est écrasé juste après son décollage hier de la base aérienne de Boufalek avec à son bord 6 membres d'équipage, dont 2 sont décédés en martyr et 4 autres ont été blessés, transférés en urgence vers l'hôpital central de l'armée. Dès l'annonce de la nouvelle, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a réagi et transmis ses sincères condoléances aux familles des victimes. Autre message de compassion, celui du général d'armée Saïd Chenkleha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, adressé aux proches des 2 militaires péris lors de ce crash et pour les 4 militaires blessés. Le général d'armée s'est rendu cette matinée à leur chevet à l'hôpital militaire de Ain Najjar pour s'enquérir de visu de leur état de santé et de leur prise en charge médicale. À l'approche des délais de réalisation des méga-projets dont l'exploitation effective est prévue pour la fin du mois en cours, le président de la République a tenu une nouvelle réunion avec les principaux acteurs de tous ces chantiers, tels la ligne minière Est, la mine de phosphate et le projet d'extraction de zinc à Wad Hamizour à Béjaïa. Abdelmadjid Tebboune suit de près en effet leur état d'avancement, tout comme pour le projet de la route transsaharienne et la ligne ferroviaire Alger-Tamanrasset. Un projet sur lequel nous nous attardons ce midi avec Smaïl Mimouni, notre reporter qui s'est d'ailleurs déplacé à Tamanrasset tout récemment. Et on commence, Smaïl, par le ferroviaire.
Parmi les projets phares figure la ligne ferroviaire minière Béchar Tindouf Garaj Bilet de 950 km inaugurée par le président de la République Abdelmadjid Tebboune le 1er février dernier. La plus grande infrastructure ferroviaire jamais réalisée en Algérie. Cette ligne stratégique reliera les mines de fer de Garaj Bilet à Béchar puis au port d'Oran pour l'exportation du minerai. Elle permettra également le transport de voyageurs en desservant plusieurs localités du sud-ouest. Dans l'est du pays, un autre projet d'envergure arrive à son terme. Il s'agit de la ligne minière reliant Bled El Hadba dans la wilaya de Tebessa au port de Annaba sur une distance de 422 km. Sa réception est attendue dès le mois d'avril prochain. Cette infrastructure stratégique permettra de transporter plus de 10 millions de tonnes de phosphate par an. Toujours dans le rail, l'Algérie poursuit la réalisation d'un méga projet reliant Alger à Tamanrasset, une ligne ferroviaire de près de 2400 km appelée à connecter le nord au Grand Sud du pays. Prévu pour une mise en service en 2027, cette voie ferrée, conçue pour des trains pouvant atteindre 220 km à l'heure, passera notamment par Gardaïa et Insalah, contribuant au développement économique du Sahara et à l'ouverture vers les marchés africains.
Smaïl Mimouni, du rail, on passe aux infrastructures routières.
Du côté des infrastructures routières, les projets avancent bien également et à un rythme soutenu. La route stratégique Tindouf-Zouilat reliant l'Algérie à la Mauritanie sur près de 890 km devrait entrer en service durant l'année 2026. Financée et réalisée par des entreprises algériennes, cette liaison vise à dynamiser le commerce transsaharien et à renforcer les échanges avec l'Afrique de l'Ouest. Enfin, la route transsaharienne, l'un des projets les plus emblématiques du continent africain, progresse elle aussi. Longue de près de 10 000 km, elle relie Alger à Lagos au Nigeria en passant par le Niger et en traversant 6 pays. Réalisée aujourd'hui à plus de 90%, cette infrastructure majeure permettra de faciliter le commerce intra-africain et d'offrir aux pays du Sahel un accès direct aux ports méditerranéens, notamment algériens. Le comité de liaison de la route transsaharienne, chargé de coordonner ce projet continental, est d'ailleurs basé à Alger. Avec ses grands chantiers, l'Algérie confirme sa volonté de se positionner comme un hub stratégique de transport et d'échange entre la Méditerranée et l'Afrique.
Suite à un glissement de terrain dont les travaux ont été achevés, la voie de contournement nord-est de la ville de Mila est finalement rouverte à la circulation, un passage important pour les poids lourds en provenance du port de Djendjen à Djigel. Sur les routes, c'est l'hécatombe malheureusement. Depuis le début du mois de Ramadan, plus de 90 personnes ont péri dans des accidents de la circulation, selon un nouveau décompte qui nous a été fourni ce matin par la protection civile, par le lieutenant-colonel Nassim Barnaoui. Il a été contacté par Smaïl Mimoun.
Cette augmentation est une conséquence directe des perturbations de l'approvisionnement de le détroit d'Hormuz, par lequel transite plus de 20% de la consommation pétrolière mondiale. Cette situation-là, qui fait monter la pression sur les réserves stratégiques de la Chine, qui a acheté plus de 6 millions de barils auprès des pays de Golfe, dont l'Iran. Même chose pour les États-Unis. Pour limiter le risque d'une crise d'approvisionnement mondial, les États-Unis ont annoncé hier qu'ils autorisent l'Inde à importer du pétrole russe pour une durée d'un mois. Si l'Arabie Saoudite dispose d'une alternative pour exporter son pétrole via le pipeline Petroline qui traverse le pays jusqu'à la mer Rouge avec une capacité de 5 millions de barils par jour, la situation pourrait se détériorer si les attaques visaient les infrastructures pétrolières et gazières de la région. Ça dépendra aussi de la durée de la fermeture du détroit d'Hormuz.
Vous l'avez compris, c'était pas le lieutenant-colonel Nassim Barnaoui que nous allons écouter à l'instant. Nous l'écouterons un peu plus tard. On passe aux opérations de sauvetage de deux personnes suite au renversement d'une embarcation pneumatique au nord de Ain Torq à Oran. Une opération menée dans le cadre des missions et des efforts humanitaires des unités des gardes-côtes relevant du commandement des forces navales visant au sauvetage des vies humaines en mer et suite à la réception par le centre régional des opérations de surveillance et de sauvetage en mer d'Oran, façade maritime ouest de la deuxième région militaire. C'était hier suite à un appel de détresse signalant le renversement d'une embarcation pneumatique transportant trois personnes à 300 mètres de la plage Corales à Ain Torq d'Oran. Énergie renouvelable, l'Algérie présente ses différents produits de recherche en la matière à Rimini, en Italie, où se tient le Salon international de la transition énergétique, une occasion pour les entreprises et sociétés algériennes d'explorer les opportunités de coopération et d'échanger des expériences, dont notamment le photovoltaïque. Les prix du pétrole, comme vous venez de l'écouter, se sont envolés. Ils ont dépassé les 87 dollars aujourd'hui, une première depuis le mois de juillet dernier. Shaib Boutamine nous a expliqué il y a quelques instants les contours de cette hausse des prix. Ces prix qui sont en effet boostés par cette guerre enclenchée au Moyen-Orient ou des frappes aériennes qui se poursuivent et qui poussent les populations au déplacement forcé. Septième jour de guerre, Karima Hasnaoui.
Tout à fait, Linda Hamed. La guerre menée contre l'Iran par l'entité israélienne et les Américains se poursuit en septième jour. L'agresseur israélien a mené tôt ce matin une nouvelle série de frappes visant différents quartiers de la capitale, notamment à l'est et à l'ouest, dans ce qu'il qualifie de nouvelle phase du conflit. Environ 100 000 Iraniens ont fui Téhéran au lendemain des attaques selon le HCR et au moins 20 Iraniens morts dans les frappes visant un quartier résidentiel au sud du pays selon un responsable iranien. Les gardiens de la révolution ont annoncé de leur côté une riposte combinée de missiles et de drones ainsi que le lancement d'un barrage de missiles Khaybar visant l'ennemi sioniste au cœur de la ville palestinienne occupée de Haïfa où 8 explosions y ont été entendus. L'embrasement de la région plonge le Moyen-Orient dans le chaos. Au Liban, l'agresseur israélien a intensifié ses frappes, notamment contre les villes de la banlieue sud de Beyrouth, dont le bilan provisoire fait état de 123 morts depuis lundi dernier. Le commissariat de l'ONU aux droits de l'homme a exigé ce vendredi des enquêtes rapides et approfondies sur les frappes israéliennes au Liban. Cette intensification s'inscrit dans une logique meurtrière de vengeance de l'entité israélienne suite à ses échecs militaires, nous dit Faisal Abdesseter, politologue libanais.
Une fois de plus, l'ennemi israélien prouve que c'est un criminel qui viole même toutes les lois connues de la guerre. Le but de l'ennemi, à travers ses raids intensifs sur la banlieue sud, est de se venger des bâtiments et des pierres après son échec cuisant à présenter une victoire sur les résistants. La résistance qui jusqu'alors continue à l'affronter dans les villages situés à la frontière avec la Palestine occupée. Depuis avant-hier, la résistance assène des coups durs à l'ennemi, ce qui le rend complètement fou. Ce qui se passe actuellement, c'est un ennemi israélien et son désir de vengeance après son incapacité et son échec sur le terrain.
Le nombre de déplacés a dépassé les 83 000 personnes au Liban suite à l'agression sioniste menée au début de la semaine contre le pays selon les indications des autorités libanaises.
Et on a appris qu'Air Algérie maintient la suspension de ses vols envers toutes ces zones à risque, notamment le Liban, Amman et le Qatar. L'actualité reste marquée également par la situation chaotique qui prévaut à Gaza, avec laquelle on entame le monde en bref, Kalima Hasnaoui.
Tout à fait, le génocide des Palestiniens à Gaza se poursuit. 3 civils sont tombés en martyr et d'autres blessés aujourd'hui selon des sources médicales sur place. Le génocide éducatif se poursuit aussi. Selon l'ONG Euromed Human Rights Monitor, les autorités de l'occupation israélienne imposent des politiques systématiques et délibérées visant à priver la population de la reprise du processus éducatif. Et de son côté, la directrice des politiques et des programmes du soutien intergouvernemental à ONU Femmes a indiqué que l'épreuve vécue par les femmes et les filles dans la bande de Gaza constitue l'une des tragédies humanitaires les plus meurtrières au monde. Le peuple sahraoui poursuit sa résistance et sa détermination 50 ans après la proclamation de son État. C'est ce qu'a affirmé le Premier ministre de la République sahraoui, Bouchraya Hamoudi Bayoun, soulignant que tout règlement du conflit au Sahara occidental ne saurait être légitime ni durable sans l'approbation du peuple sahraoui à travers l'exercice de son droit inaliénable à l'autodétermination. L'armée russe annonce un nouvel échange de prisonniers ce vendredi entre Kiev et Moscou dans le cadre d'un accord convenu lors de récentes négociations à Genève.
12h42 minutes sur les ondes d'Alger Chaîne 3, retour chez nous avec tous les sujets qui sont liés au mois sacré. On commence par les agents de contrôle qui ont été désignés par la tutelle pour accomplir leur mission pendant cette période et qui semblent dépassés par le manque de respect de la réglementation et de l'hygiène. À Sidi Blabès, ils ont procédé à de nombreuses saisies de produits impropres à la consommation. La correspondance d'Inès Mohamed.
La direction du commerce de la wilaya de Sidi Blabès a saisi plus d'une tonne de produits impropres à la consommation lors de plus de 1600 interventions d'inspection et de contrôle effectuées par 62 brigades. Aberkan Yasmine, chef de service de la protection du consommateur et de la répression des fraudes.
La direction du commerce de la wilaya de Sidi Blabès a réalisé 1619 interventions qui ont permis de relever 224 infractions et l'établissement de 213 PV. Ces interventions ont permis de retirer 1,35 tonnes de produits impropres à la consommation qui sont essentiellement représentés par les viandes blanches et rouges, des viandes hachées, des merguez, etc. Aussi des gâteaux orientaux, des huiles de friture, des produits de conserve et les boissons aussi, et les produits cosmétiques. Ces produits saisis ont une valeur qui dépasse les 835 000 dinars algériens. Nous avons relevé un défaut de facture qui dépasse les 83 957 000 dinars et les activités, bien sûr, des brigades de contrôle de la qualité et de la répression des fraudes ont effectué 24 prélèvements pour s'assurer de la qualité des produits mis sur le marché.
Parallèlement, des campagnes de sensibilisation sont menées par la direction du commerce pour promouvoir une consommation rationnelle et limiter le gaspillage. De Sidi Blabès, Inès Mohamed pour Alger Chaîne 3.
Une pensée à présent aux orphelins, tous ces enfants sans famille dont certains sont pris en charge par des organismes habilités et par la société civile, dont l'association Kafil Yatim de Sokaras. Le compte rendu de Sadra Bouraoui.
plus de 320 orphelins et veuves, en plus d'étudiants universitaires venus de la Mauritanie et du Sahara occidental, ont été conviés à l'occasion de la journée de l'orphelin arabe pour partager le ftour qui leur a été offert par l'association nationale Kafil Yatim, bureau de la wilaya de Sougaharas, à l'occasion, rappelons-le, du mois sacré de Ramadan au niveau de l'université Mohamed Sharif Msaadia. Sur ce sacré événement, Mourad Benjeriou, chargé de communication de l'association, nous dit:
cette initiative solidaire vise à apporter de la joie à leur cœur et à renforcer l'esprit d'entraide et de la solidarité sociale. Cette action s'inscrit dans la volonté de mettre en valeur les valeurs de compassion, de cohésion au sein de la société, reflétant ainsi l'authenticité du peuple algérien et son attachement aux traditions de solidarité, notamment dans le mois sacré de Ramadan.
On rappelle que l'association en question compte plus de 1000 orphelins dont leur prise en charge s'étend sur toute l'année, tout en précisant qu'à la veille de ce mois béni, plus de 600 kits alimentaires faisant partie d'aides nationales ou locales ont été distribués au niveau des familles d'orphelins à travers 23 communes sur les 26 que compte la wilaya de Sougaharas, Sadq Bouraoui pour Algérien 3.
Les jeunes récitant du Coran, un concours devra les départager à El Oued. Une cérémonie de remise des prix aux lauréats est actuellement activement préparée, nous dit Amal Dafer.
Les préparatifs sont en cours à El Oued pour la cérémonie de remise des prix aux lauréats du concours de récitation du Saint-Coran, déclare l'Arbi Beloul Louali.
Il y a presque 1050 candidats et candidates pour la récitation des Corans saints. Il y a parmi eux 58 qui ont appris la totalité des Corans, 46 enfants et 12 filles.
En plus du budget alloué par la wilaya, 4 partenaires nationaux apporteront leur soutien à l'événement, précise Louali.
Nous avons 4 partenaires. Nous avons Sonatrach, nous avons Algérie Télécom, et nous avons Neftal et nous avons Sonalgaz, bien sûr. Et la grande partie, c'est le budget du wilaya. Comme vous savez, il y a des cadeaux pour l'Oulida tout en a. Plus, il y a 25 amras.
Plus de 60 enfants aux besoins spécifiques seront honorés lors de cette cérémonie, nous dit Bahou Mobrouk, directeur de la DAS d'El Oued.
95 enfants aux besoins spécifiques participent au concours préliminaire. 61 lauréats ont été sélectionnés pour être honorés lors de cette cérémonie.
El Oued, Ahmad Dafour pour Algérien 3.
Et on a appris le décès du journaliste et ancien directeur de la chaîne de télévision coranique Mohamed Awadi. Le défunt a occupé plusieurs postes de responsabilité lors de sa carrière professionnelle à l'EPTV, l'établissement public de la télévision algérienne. Nos sincères condoléances à sa famille et proches. Rostam Yahya Sherif, on reparle sport dans ce journal avec tout particulièrement la gymnastique. Kylian Emour qui se qualifie pour une autre finale à la deuxième étape de la Coupe du Monde à Bakou.
Et il s'agit de la finale de la poutre en se classant première des qualifications avec 14 833 points avec un niveau de difficulté élevé de 6.6 alors que sa coéquipière Luna Hamem s'est éliminée, classée 20e avec 11 033 points. La finale de la poutre aura lieu dimanche, ça sera la deuxième finale pour Kylian Emour puisque je rappelle hier Kylian Emour, notre champion olympique et champion du monde, s'est qualifié pour la finale des barres asymétriques qui aura lieu demain. Et à l'exercice au sol, c'est Luna Hamamas s'est classée 12e avec 11 666 points et ne disputera pas la finale. Un mot de judo avec l'entrée en lice ce matin de 3 judokas algériens au Grand Prix d'Autriche qui se poursuit d'ailleurs en ce moment même dans la ville de Linz. Seul Qadou Houadia reste encore en compétition dans la catégorie des 48 kilos après avoir battu la Roumaine Bogdan Laura au premier tour. Qadou Houadia sera opposé au tour suivant à un gros morceau, la Kazakh Habiba Abouzakinova, qui n'est autre que la numéro 1 mondiale chez les moins de 48 kilos. Les deux autres judokas engagés pour cette première journée du Grand Prix d'Autriche, Qais Moudetter et Bakhira Khadija, ont été éliminés ce matin dans la catégorie des moins de 66 kilos. Qais Moudetter s'est qualifié au premier tour face à l'Australien Joshua Katz, avant d'être éliminé par le 59e mondial, le Britannique Friar Michael, et de son côté, Bakhira Khadija, du premier tour, quittera la compétition deuxième tour. C'était face à l'une des favorites chez les moins de 57 kilos, la brésilienne Jessica Lima, 16e au ranking mondial.
Après le sport, on vous propose de la détente et des notes musicales avec les soirées spéciales Mdan qui sont animées au rythme Shabi à Tizi Ouzou. Nasreddin Galiz s'est produit à la salle Durdura avec un répertoire mélangeant l'ancien et le nouveau Shabi. Mohamed Haouchine.
Le nombre public de la ville déjeuner aura applaudi durant toute la soirée Omar Khloui en levée de rideau, puis en deuxième partie, le virtuose Nasreddin Galiz qui aura offert un beau récital qui a fait plaisir à ses nombreux fans, mais aussi à l'artiste lui-même qui a toujours pris d'ailleurs du plaisir à se produire à Tizi Ouzou.
Ramadan, c'est sacré pour moi à Tizi Ouzou. C'est un public royal, c'est un public douak ta chabi, connaisseur, avec un public pareil, extraordinaire. Et puis on est rentré dans le nouveau, le néo Shabi, le dernier et tout. Et puis, comme on a fait les chansons.
Il est à noter que les amateurs de Shabi seront gâtés ce soir encore à la salle Durdura avec un autre virtuose du Shabi, Sidi Ali Lqam, alors que la maison de la culture Mouloud Mamri accueillera le fameux groupe Targhi Tikoubaouine. Tizi Ouzou, Mohamed Haouchi pour l'Hichène 3.
Voilà donc pour le programme de cette soirée. 12h50 sur les ondes d'Alger Chaîne 3. Cette édition s'achève. Elle a été réalisée par Ahmed Dadou et Mohamed Zawi. À la régie aujourd'hui, il y avait Tahar, Sadiq à la technique et Ousreymi Ghessine. Et nous avons avec nous Amin Mounir pour la page météo.